BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good Evening Business, Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, bientôt 18h, bienvenue dans Good Evening Business comme tous les soirs jusqu'à 20h. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, cette taxe, mot très à la mode, c'est plutôt cette surtaxe qui va venir frapper l'électricité à tel point qu'on se demande si la facture des Français va vraiment baisser ou dans quelle proportion. C'est tout un art, comme toujours, on va voir ça bien sûr. Dans un instant, avec Mathieu Pechberti, votre invité dans 10 minutes, Edwige.
Absolument, c'est le secrétaire général de Force ouvrière, c'est Frédéric Souillot, il ne s'est pas encore exprimé. La question des retraites, l'intersyndicale vient de publier un communiqué pour nous dire on est prêt à négocier, mais négocier quoi? On parlera des petites retraites décalées, est-ce que c'était une bonne idée? Sachant qu'Agir Carco doit se réunir le 15 octobre pour décider si oui ou non il y aura une augmentation. Et puis on parlera bien sûr des fonctionnaires.
Bon, alors parce qu'on ressort les vieilles ficelles, les fonctionnaires, les 35 heures quand on cherche de l'argent, c'est la coutume. Et on est en plein dedans une fois de plus à l'heure actuelle. Voilà entre autres les thèmes, plus bien d'autres qu'on va aborder. On est ensemble évidemment jusqu'à 20h sur BFM.
À tout à l'heure.
Good Evening Business, le journal.
Donc, on vient encore d'en parler, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on cherche de l'argent, à tel point que, d'après des infos de presse, le gouvernement devrait appliquer une surtaxe sur l'électricité. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Ça se précise alors que le gouvernement nous disait encore il y a deux mois que la facture allait baisser d'au moins 10%, c'est ça Mathieu,
hein? Oui exactement, on parle maintenant, on en est sûr, d'une surtaxe d'impôt sur les sociétés et revoilà une autre surtaxe, cette fois sur les prix de l'électricité. Alors en fait, les gouvernements étudient la possibilité effectivement d'appliquer une taxe dite exceptionnelle sur la facture d'électricité. Je m'explique parce qu'on part un petit peu de loin. La facture d'électricité, il y a évidemment une taxe dessus qui représente environ un tiers de son total. Ouais. Et cette taxe avait été totalement annulée pendant la crise énergétique puisque les prix avaient flambé. Le gouvernement avait fait un effort fiscal important pour soutenir ce qu'on a appelé à l'époque le bouclier tarifaire. Ouais. Sauf que depuis, les prix ont beaucoup baissé. Le gouvernement a décidé de relever en deux temps cette taxe à son niveau d'avant-crise, ce qui va être fait en 2025. Et comme les prix de l'électricité ont beaucoup baissé sur les marchés, en contrepartie, le consommateur devait bénéficier effectivement d'une baisse des prix de 10 à 15%. C'est ce que l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait annoncé au mois de juillet. Et donc là, le gouvernement qui vient d'arriver aux manettes, qui cherche évidemment plusieurs milliards d'euros pour boucler son budget, se dit que plutôt que d'avoir une baisse pour les consommateurs de 10 à 15%, on pourrait se contenter d'un petit peu moins et donc récupérer encore quelques milliards d'euros et donc appliquer une surtaxe sur la facture d'électricité. On n'a pas de chiffre pour le moment, mais on parle de quelques milliards d'euros.
Mais dis donc, l'impression qu'on cherche beaucoup d'argent autour de l'énergie. Il y a une semaine ou deux, on parlait encore de la surtaxe sur EDF. Là, c'est un petit peu la chasse dans le secteur. Là.
Alors, la surtaxe, effectivement, là, on va avoir un retour de la taxation normale sur la facture d'électricité. On parle de 4, 5, 6 milliards d'euros. Ensuite, il va sûrement y avoir donc cette nouvelle taxe dont je viens de parler, encore quelques milliards d'euros. Et puis, effectivement, il y avait une taxe sur les outils de production d'EDF, c'est-à-dire les centrales nucléaires, en gros, qui a été, a priori, enterrée par le gouvernement, mais en contrepartie, EDF a consenti ou va consentir à verser ce qu'on appelle un dividende exceptionnel à l'État. Là encore, on n'a pas de chiffre, mais comme le gouvernement cherchait 3 milliards sur cette poche, on devrait, entre le dividende, le retour normal de la taxe et la surtaxe, à la louche, on devrait quand même arriver à environ 10 milliards d'euros sur le secteur énergétique et notamment, essentiellement, pour l'entreprise publique, l'ancien monopole EDF.
Je disais, c'est tout un art. Hein, voilà,
n'est-ce pas ?
Un peu trop.
C'est long à expliquer.
Oui, mais c'est désormais plus clair. Voilà. Merci beaucoup. On en reparlera tout à l'heure à 18h30, effectivement, de ce subtil équilibre sur les prix de l'énergie. Merci beaucoup, Mathieu. Dans l'actualité ce soir, la première rencontre aujourd'hui à Luxembourg entre Antoine Armand, nouveau ministre de Finances et ses homologues de l'Union européenne. Il y est allé. Il a tenu un discours similaire à celui de Michel Barnier ces derniers jours, du sérieux budgétaire, des objectifs chiffrés. C'est un peu du copier-coller, écoutez.
J'aurai l'occasion de présenter une trajectoire de redressement des finances publiques, d'abord pour la France, parce que c'est nécessaire pour notre pays, et bien sûr pour respecter pleinement les engagements européens que la France a pris, et je le dis ici, que la France tiendra. Cette trajectoire, je l'ai dit, elle aura à la fois pour but de redresser nos finances publiques et de soutenir la croissance et l'investissement à la fois en France et en Europe, puisque c'est une question de renforcement à la fois de notre pays et du continent européen.
Voilà Antoine Armand, donc en arrivant à Luxembourg ce matin. Écoutez un petit peu plus tard ce qu'en a pensé le commissaire aux affaires européennes économiques, l'italien Paolo Gentiloni, le genre de personnalité qui ne rigole pas du tout avec les déficits publics. Écoutez.
Nous sommes déjà en train de discuter au niveau technique avec les autorités françaises, avec le nouveau gouvernement, de leur budget et du plan fiscal à mi-mandat. Les discussions ont commencé la semaine dernière. J'ai aussi eu des conversations avec le nouveau ministre de l'économie et je considère ces conversations prometteuses.
Voilà, discussion prometteuse, dit Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques, tout à l'heure à Luxembourg. On parlera bien sûr de tout cela avec nos experts hein, jusqu'à 20h sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, on va continuer à discuter entre Atos et l'État. Vous savez qu'il était question depuis mars dernier que l'État rachète les activités dites stratégiques du groupe. L'offre a expiré, a dit ce matin Atos, qui dit vouloir continuer à discuter avec l'État. Le gouvernement a très vite répondu qu'il proposerait un nouveau schéma d'acquisition prochainement. Voilà ce qu'a dit Bercy, ça sera prochainement. 18h04, si ça se confirme, ça sera un choc. Mais d'après plusieurs médias, BP pourrait annoncer bientôt qu'il renonce à tous les objectifs qu'il s'était fixés d'ici 2030 pour réduire sa production de gaz et de pétrole. Les concurrents, cela dit, sont un peu dans le même état d'esprit. Raphaël Coudert.
Rien n'est aujourd'hui plus rentable que le pétrole, estime BP. Le groupe avait pourtant dévoilé en 2020 l'une des plus ambitieuses feuilles de route du secteur, réduire de 40% sa production d'hydrocarbures d'ici à la fin de la décennie, tout en développant massivement les énergies renouvelables. Mais la crise énergétique est passée par là, les conditions de financement et l'augmentation du coût des matières premières ont grévé la rentabilité des investissements dans la transition. BP a donc adouci cet objectif à 25% l'an dernier et il est finalement en train de l'abandonner complètement. Son nouveau patron, en place depuis janvier, cherche à rassurer les investisseurs alors que le cours de BP a baissé de 20% en un an. Le Britannique est actuellement en négociation pour investir dans plusieurs nouveaux projets pétroliers en Irak et au Koweït. BP n'est d'ailleurs pas du tout un cas isolé. En début d'année, Shell a lui aussi revu à la baisse sa stratégie dans les énergies renouvelables. La semaine dernière, Total Energy a également dit qu'il entendait augmenter sa production de pétrole et de gaz de 3% jusqu'en 2030.
Raphaël Coudert, et puis on voulait dire un mot du français bon duel qui a publié vendredi soir des résultats qui n'ont pas plu du tout au marché. D'ailleurs, le groupe a annoncé ce matin un plan pour se transformer et repartir de l'avant. Pauline Tadevin nous raconte ça.
Bonduel se donne 3 ans pour retrouver progressivement une rentabilité satisfaisante et regagner des parts de marché. Au cœur de sa stratégie, ses marques, Bonduel et Casgrain, elle souffre de la concurrence des produits de marques distributeurs qui ont fortement progressé avec l'inflation. Exemple notamment avec les salades en sachet. Face à des pertes de 10 millions d'euros par an, Bonduel cède cette activité en France et en Allemagne. Pour éviter que cela ne se reproduise, l'objectif affiché est d'innover pour mieux se différencier. En Europe, le groupe entend moderniser et revaloriser la conserve et accélérer sur les produits préparés. Il compte aussi redresser la barre aux États-Unis, premier marché alimentaire au monde où il est en difficulté. Une pointure passée par Coca et Mars y a été nommée pour faire repartir les ventes. Cela passera là-bas comme ailleurs par des dépenses en marketing pour rajeunir l'image de Bonduel et tenter de faire décoller aussi son cours de bourse.
La stratégie de Bonduel pour aller de l'avant. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On s'en sort bien apparemment à la Bourse de Paris aujourd'hui.
Mais oui, on s'en sort même très bien. Plus 0,46% pour le CAC 40, 7576 points alors que le reste de l'Europe boursière était en hausse, mais plus 0,3% pour l'Eurostock 51. On a même Francfort qui a terminé sur une baisse, moins 0,09%. Alors pourquoi? Parce qu'on a le secteur du luxe qui nous a sauvés. Encore une fois, Kering plus 4,57 à 247,35 €. On a LVMH plus 2,70, 269,80 €. Alors deux choses à cela. Premièrement, demain, la Chine doit annoncer de nouvelles mesures, un nouveau stimulus package pour l'économie chinoise. Et puis, deuxièmement, il y a aussi un petit aspect spéculatif. On sait que Richemont veut mettre en vente un important portail Internet. Et toute nouvelle de regroupement dans le secteur du luxe peut stimuler un petit peu l'ensemble du secteur. Bonne performance des banques aussi, qui sont bien redressées aujourd'hui. BNP Paribas, notamment, qui a gagné 1,5% à 61,81 €. Il faut dire que ça s'est un petit peu tendu sur le marché obligataire, sur les taux. Donc ça a un peu stimulé le secteur secteur bancaire. En revanche, les technos, elles, étaient en net repli. Capgemini, plus forte baisse du CAC, moins 2,7%, 183,35€. L'Euronext Tech Leader se termine d'ailleurs en baisse de 0,46%, hein, ce que le CAC 40 a gagné. Et puis, le chiffre du jour, c'est les $80 sur le pétrole. Ça y est, on a dépassé le cap. $80,74 pour le Brent. On est au plus haut officiellement depuis le 26 août dernier.
Merci beaucoup, Antoine. On regarde Wall Street rapidement, évidemment, mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui perd 0,57%, 42 110 points. Le Nasdaq, de son côté, qui perd 0,3%, 18 075 points. Tout ça à la mi-séance. 18h08, c'est donc Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, qui est l'invité d'Eddie Chevrillon. La grande interview arrive dans deux petites minutes sur BFM Business. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Frédéric Souillot, il est secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Frédéric Souillot.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous, vous êtes peu exprimé jusqu'à présent, il y a une actualité extrêmement riche. On va parler de retraite bien sûr, on va parler de la retraite du privé. Il y a une réunion très importante le 15 octobre prochain pour savoir si oui ou non vous allez, vous les partenaires sociaux, augmenter les retraites ou pas, contrairement au système général. On parlera d'assurance chômage, bien sûr, et des fonctionnaires. Michel Barnier veut moins de fonctionnaires. Mais d'abord, une question un peu plus générale, Frédéric Souillot. Est-ce que vous avez entendu le discours de politique générale? Il y a la présentation du budget jeudi. Est-ce que, comment vous jugez les premiers pas de Michel Barnier? Est-ce qu'il y a une méthode Barnier?
Alors, je ne sais pas si c'est une méthode Barnier, mais c'est la méthode avec une assemblée nationale où il n'y a pas de majorité absolue. Et pour le coup, ce que je dois reconnaître, c'est que Michel Barnier fait ce que nous disons depuis 2022, redonner la place qui est la sienne à la négociation collective. Donc, qu'il nous redonne les clés pour discuter assurance chômage, retraite ou augmentation des salaires, c'est toujours la bonne méthode. C'est le L1 du Code du Travail, c'est le premier article du Code du Travail. Redonnons la place qui doit être la sienne à la négociation collective.
Donc pour l'instant, vous dites, vous lui donnez plutôt un satisfecit.
Pour l'instant, si je me tiens à son discours de politique générale, il nous redonne la main sur tous les sujets que nous avons à traiter, mais c'est ce que nous disons depuis toujours. Le Parlement, soit, mais pour parler de sociétal et tout cela, pour tout ce qui concerne le social ou le paritarisme, et nous avons montré qu'en gestionnaire du paritarisme, on arrivait à mieux gérer que l'État.
Est-ce qu'on peut dire en termes de climat social, de dialogue social, est-ce qu'on va vers un apaisement?
Je ne sais pas, ça, s'il y a un apaisement.
Je demande ça au patron de Force Ouvrière, donc il est quand même...
Oui, le patron de Force Ouvrière, sur le dialogue social, nous, on est toujours prêts à discuter et à négocier de tout. Mais vous vous rendez compte que depuis 5 ans, on était obligé de produire un agenda social autonome entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés parce que c'était l'État qui nous disait vous devez négocier là-dessus ou sur autre chose. Donc maintenant, que l'État nous redonne la main sur tout ce qui nous concerne, ça nous va bien.
Juste encore une question, je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de Berlin, qui conseille de ne pas plaisanter avec les marchés financiers. Bruxelles qui salue les discussions prometteuses avec Michel Barnier. Et Michel Barnier qui dit il faut prévenir le risque d'une crise financière. Est-ce que, quelque part, vous dites c'est vrai qu'on a quand même un trou abyssal à combler?
Alors, sur le trou abyssal, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Maintenant, il y a une dette. Ce que je ne souhaite pas et ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on présente la facture uniquement aux travailleurs.
Grandes entreprises, c'est aux grandes entreprises. Et aux super-riches.
Mais les super-riches, si c'est les retraités avec le décalage de l'augmentation de leur retraite sur l'inflation de janvier à juin, c'est pas les super-riches là.
Non, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Est-ce que vous dites pas, vous voyez pas de crise financière? Vous dites là, on cherche un peu à nous faire peur, à nous impressionner.
Alors, la crise, la facture du quoi qu'il en coûte, en gros, entre nous. Parce que c'était facile au moment du quoi qu'il en coûte, avec les intérêts négatifs, d'emprunter. Aujourd'hui, c'est entre 53 et 60 milliards d'euros par an d'intérêts. C'est un vrai coût. Maintenant, trouver ces 60 milliards sur le dos des fonctionnaires ou sur le dos des retraités, ce n'est pas la solution.
Alors, parlons de la réforme des retraites. Vous avez publié, là, tout à l'heure, juste avant 18h, vous avez publié l'intersyndicale, les 8 syndicats.
Il n'en manquait aucune.
C'est pour ça que j'insiste lourdement dessus. Se dit prête à discuter avec le gouvernement, mais redit non au départ à 64 ans. Bon, là, on est un peu dans une impasse, mais en même temps, visiblement, vous êtes prêts à vous asseoir ou vous rasseoir à la table des négociations. Parce qu'il a dit, on ne va pas changer les paramètres financiers.
C'est pas vrai.
Quoi ?
Il a dit, dans son discours de politique générale,
oui.
Il a dit, je redonne la main aux partenaires sociaux pour discuter de retraite, oui. À partir du moment où l'équilibre financier oui. De la réforme...
Ben voilà.
Eh ben non. D'accord. Parce que l'équilibre oui. Financier de la réforme... Elisabeth Borne nous avait dit que ça ferait 12 milliards d'euros dans les caisses de l'État au 31 décembre 2023. Ils n'y sont pas.
Non, c'est clair.
Il n'y a pas d'équilibre financier sur cette réforme. Le recul de l'âge de départ ou l'allongement de la durée de cotisation, aujourd'hui donc, encore, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. À l'assurance chômage, maladie,
invalidité. Ça s'améliore un peu le taux d'emploi des seniors.
1,5%.
Voilà. Bah oui, mais... On progresse. Oui. Parce qu'on recule l'âge de départ à la retraite. Ça
non,
progresse un peu.
On ne progresse pas parce qu'on recule l'âge de départ à la retraite. On progresse parce qu'on discute de l'emploi des seniors. Prendre les choses par le bon bout, c'est de parler du taux d'emploi des 55-60 ans.
Donc, là, vous nous dites ce soir, Frédéric Souillot, vous êtes convaincu que oui. Le Premier ministre ne met pas sa ligne rouge, puisqu'il parle souvent de ses lignes rouges, ne met pas une ligne rouge sur le départ à 64 ans. C'est ça ?
D'ailleurs...
C'est ce que vous avez compris, puisque vous l'avez rencontré.
C'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai entendu dans son discours de politique générale.
Je n'ai pas complètement entendu la même chose, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Oui.
Dans son discours de politique générale, est-ce qu'il a parlé de l'âge de départ à la retraite ? Est-ce qu'il a parlé de l'allongement de la durée de cotisation ? Non. Il a juste dit qu'il nous redonnait la main pour améliorer. Et qu'est-ce que nous disons dans notre communiqué où il ne manque aucune organisation syndicale ? Suspendre la réforme des retraites, le temps des discussions, et nous lui montrerons que le recul de l'âge de départ et l'allongement de la durée de cotisation, il faut l'abroger.
Oui, et il faut une grande conférence, ça aussi. Vous appelez à une grande conférence, justement, sur le financement du système de retraite.
Ben, on a toutes les organisations. Nous sommes les 8 à avoir signé. On demande
oui,
une
c'est
conférence.
Rare, oui.
Ben,
Non, mais je comprends
c'était,
que... Ouais,
c'était oui. Pas rare l'année dernière sur la bagarre. L'intersyndicale, c'est ni le Nouveau Front Populaire, ni la NUPES. C'est un outil pour l'action syndicale. Aujourd'hui, on est tous encore contre 64 ans. C'est toujours non. D'ailleurs, c'est le titre de notre communiqué. Maintenant, si on doit débattre du financement, eh bien, laissons-nous amener nos arguments.
D'accord.
Jean-Hervé Lorenzi, la chaire des économistes...
Président du cercle des économistes qu'on connaît bien ici.
Oui. Que vous connaissez bien. On ne peut pas dire que c'est un économiste atterré.
Non.
Bon. Qu'est-ce
même,
qu'il explique
même, oui.
Que si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, la norme OCDE, c'est 20 milliards dans les caisses.
C'est pas moi
qui le dis.
Non, mais c'est ce que cherchait à faire aussi Emmanuel Macron, hein, quand il essayait d'augmenter le taux d'emploi.
Emmanuel Macron, il a essayé d'augmenter le taux d'emploi des 55-64 ans ?
Oui.
Ah bon ? Oui. Alors il l'a fait tout seul. Parce que quand il nous a mis autour de la table pour parler pacte de la vie au travail l'année dernière et donc de l'emploi des seniors, ils ont dit c'est pas le match retour de la réforme des retraites et la retraite progressive, les aménagements de fin de carrière, non.
Alors, il y a beaucoup de sujets à traiter avec vous, donc là on a bien compris que vous pensez qu'il y a une porte ouverte.
Oui. Négociation sociale, oui. Il y a des portes ouvertes et on va les prendre.
Le 15 octobre prochain. Ça va être très intéressant parce que c'est donc la réunion de la GRCARCO.
Oui.
Donc, c'est les retraites du privé.
Les retraites complémentaires,
Les retraites complémentaires.
Qui
et là, vous allez savoir, ça représente à peu près 11 millions de retraités, c'est
13.
Ça 13, pardon. Vous allez décider si vous allez augmenter ou pas les retraites.
Complémentaires.
Complémentaires, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui veut. À votre avis, quelle décision. Enfin, vous, est faux. Vous pesez lourd dans la balance. Quelle décision vous comptez prendre ?
La décision, on a déjà eu des discussions.
Oui.
On est tous pour une augmentation des retraites complémentaires. Déjà au niveau de l'inflation. Et puis, l'année dernière, nous l'avions fait déjà le pas.
Vous étiez à 4,9, il y a déjà, non, oui, 4,9% d'augmentation en 2023.
Oui.
Et 5,1 en 2022. Et là, donc ça va être plus combien en 2024?
Ça va tourner l'augmentation autour de 2,1, 2,2% pour que les retraités du privé, eh bien, puissent absorber dans leur pouvoir d'achat l'inflation.
Oui, mais l'inflation était à 9 au mois d'août et elle a encore baissé là.
Oui, mais les discussions que nous avons eues jusqu'à maintenant, c'est entre 1,9 et 2,1.
Oui, d'accord. Donc, c'est quand même c'est important, cette décision, parce que c'est un peu un coup de tonnerre dans le ciel des retraites, lorsqu'on voit que vous avez que l'État, justement, d'après Michel Barnier, a donc décidé de décaler l'augmentation liée à l'indexation des retraites du 1er janvier au 1er juillet 2025. Vous dites quoi? Ben, regardez, nous, ce qu'on fait, nous, on donne un coup de pouce.
Alors nous, on dit que on ne doit pas prendre sur le pouvoir d'achat des retraités. C'est même pire que ce que vous dites. Si on prend l'inflation en janvier, les prévisions autour de 1,9.
Oui, même moi, oui.
Et qu'on décale au mois de juillet.
Oui.
Et qu'on reprend l'indice INSEE de l'inflation sur un an et qu'à ce moment-là, il est de 1,2. Eh bien, on aura encore repris sur le pouvoir d'achat des retraités.
Oui, mais
c'est la très mauvaise idée. Mais en même temps, Michel Barnier le dit aujourd'hui, c'est une idée. Mais il va falloir qu'il aille devant le Parlement et puis que ça passe au projet de loi de finances de la Sécurité
sociale.
Vous qui
aimez bien les chiffres, Frédéric Souillot, qui les utilisez avec brio, vous voyez bien comme moi que les retraites, là, il y a quelques jours, quelques semaines, ont été revalorisées de 5%. Donc c'est déjà beaucoup.
Mais alors, 5%, l'inflation était de combien? 5%, c'était janvier, et c'est Bruno Le Maire qui l'a fait.
Et là, c'était 4%. Là.
Là?
Oui.
Sur les retraites?
En septembre.
Non.
Il y a une augmentation en septembre. Oui, il y a une augmentation au mois de septembre.
Non, le régime de base n'a pas été augmenté. Il a été... Non, il n'a pas été augmenté. Il a été augmenté en janvier.
En janvier 5,5, là,
de 5,5.
Ça a coûté 14 milliards, hein, c'est ça?
Oui. Oui, mais non, ça ne coûte pas 14 milliards. Mmh. Ça s'appelle des cotisations, ça s'appelle du salaire différé. Tous les jours, ceux qui travaillent cotisent. Et c'était notre système de protection sociale collective qui nous prend de la naissance jusqu'à la mort.
Alors justement, ça nous fait passer au sujet d'après. Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on... Il y a toute une réflexion autour des exonérations de charges sociales, justement, autour du SMIC, sur comment faire pour désmicardiser la France. Où est-ce que vous situez le bon curseur? Parce que certains disent ça pénalise l'industrie. Ça, au contraire, ça pénalise les gens les moins diplômés pour trouver un job. Où est-ce que, pour EFO, c'est quoi?
Alors nous, pour EFO, d'abord, c'est conditionnalité des aides publiques aux entreprises.
Oui, d'accord.
Parce qu'aujourd'hui... jusqu'à 1,6 SMIC, exonération totale de cotisation. Mmh. Ce que nous disons, si on passe de 1,6 à 1,4 SMIC, c'est 10 milliards dans les caisses le mois suivant. Il n'y a pas de sujet. Mmh. Deuxièmement, est-ce qu'il faut exonérer sur les plus bas salaires?
Voilà.
Ou augmenter les exonérations, c'est le rapport qui est sorti, sur des salaires plus hauts pour... tirer les gens vers le haut et tout cela. Le SMIC, c'est le salaire minimum. Mmh. Qu'il soit indexé sur l'inflation, c'est tant mieux. Qu'il y ait un coup de pouce au SMIC, on a salué les uns et les autres que la revalorisation du SMIC soit avancée de 2 mois.
Oui. Il n'y a pas de coup de pouce, là, c'est la revalorisation.
Il n'y a pas de coup de pouce, on l'avance de 2 mois. Mmh. C'est pas mal, c'est pas bête. On aurait souhaité, nous, un coup de pouce, mais... exonération de cotisation, il faut qu'il y ait une conditionnalité des aides publiques aux entreprises.
Ok, mais vous êtes juste pour avoir le... Où est-ce que vous mettez le curseur? Entre quoi et quoi?
Alors, le curseur...
Où sont les bornes, pour vous?
Le curseur, on redescend à 1,4.
D'accord.
SMIC.
Ok.
Et, pour le coup, après ça, si jamais il doit y avoir des exonérations de cotisation, il vaut mieux que ce soit sur des salaires plus élevés, ça tirera...
Jusqu'à 2,5, jusqu'à quoi? Oui.
Okay. Ben, le rapport dit entre 2,5 et 3,5.
Oui.
Maintenant, sur 3,5 SMIC, Est-ce qu'il y a besoin d'avoir d'exonération de cotisations? J'en suis pas convaincu.
Ben certains disent, c'est par exemple pour les TPE, PME, c'est ce qui leur permet, je veux dire, d'avoir des gens plus diplômés, plus
Ciblons,
voilà, de tirer par le haut.
Eh bien, ciblons. Ciblons les exonérations de cotisations. Okay. C'est comme le crédit impôt recherche et développement.
Oui.
7 milliards d'euros par an. Quand des entreprises qui le touchent versent des dividendes aux actionnaires, je ne parle pas de bénéfices de l'entreprise, mais des dividendes à hauteur de plusieurs milliards, ils n'ont pas besoin d'être publics.
Ouais, d'accord, ok, moi ça mérite d'être clair. Frédéric Souillot, on a encore deux sujets à aborder, il nous reste peu de temps.
Ah bon?
Sur l'assurance chômage,
oui.
Est-ce que vous êtes ok, FO, parce que la CFDT a dit ok, banco, pour avoir une négociation flash, parce que là, normalement, il faut trouver un accord avant le 31 octobre.
Alors, d'après ce que je sais, il va y avoir encore un décret de jointure qui va repousser.
Un décret de jointure qui va aller jusqu'où?
Je sais pas, on nous dit pour l'instant 30 novembre, mais vous savez, c'était 30 juin, 31 juillet.
Non, mais
juillet,
j'avais pas l'info, c'est pour ça que je vous pose la question.
30 septembre, bon.
30 novembre, d'accord.
30 novembre. Bien évidemment, nous demandons, nous, à Force Ouvrière, l'agrément de la convention que nous avons signée le 23 novembre l'année dernière, avec la CFDT, la CFTC, toutes les organisations patronales. Le seul point qui avait renvoyé, c'était sur l'emploi des seniors.
Oui.
Eh bien, on va faire en parallèle, on va reprendre l'assurance chômage, la convention de l'année dernière, et négocier sur l'emploi des seniors.
Mais pourquoi ça va marcher là, alors ça n'avait pas marché le coup d'avance? C'est pour ça que l'État était passé en force.
Pour une raison
très simple. Parce que vous aviez des lettres de cadrage.
Pour une raison très simple, ça n'avait pas marché, pacte de la vie au travail. À partir du moment où l'exécutif avait mis des oukases en disant c'est pas le match retour de la réforme des retraites sur l'aménagement de fin de carrière et la retraite progressive, et où Michel Barnier a dit que lui n'avait pas de ligne rouge sur le sujet, trouvez un accord et je le ferai agréer.
D'accord. Donc la balle est dans votre camp, dans le camp du patronat.
La balle est dans le camp de ceux qui ont l'habitude de négocier, c'est tant mieux.
Oui, d'accord, ok. Mais ça veut dire quand même que les négociations avec le patronat sont plutôt bonnes, y compris pour Force Ouvrière.
Ça veut dire que on arrive toujours à trouver des accords. On a même signé trois accords nationaux interpro au moment où le président de la République avait dissous l'Assemblée nationale.
Ouais. Ok, donc pour une négo flash, mais jusqu'au 30 novembre quand même, pas le 31 octobre, ça ferait un peu serré. Alors, Michel Barnier, par contre, là, il a dit qu'il voulait moins de fonctionnaires. Et vous avez 20 secondes pour répondre. Est-ce que c'est une ligne rouge pour Force Ouvrière?
Mais bien évidemment, les services publics, et tout le monde se vante les services publics en permanence. Dès qu'il y a une crise, c'est une richesse. Et une fois que les crises sont terminées, on nous dit que c'est un coût. Eh bien, moins de fonctionnaires, moins de services publics, on veut moins de forces de l'ordre, moins de représentants, moins de commerce de proximité, moins de choses comme ça.
Non, au contraire, il a dit pas de personnes, de fonctionnaires en contact avec les citoyens.
Donc, d'accord.
C'est ceux qui sont dans l'administration, reconnaissez qu'on est suradministré.
Mais c'est faux.
Vous trouvez pas?
Mais
dans votre vie au quotidien, vous ne trouvez pas?
Mais non, moi je ne trouve pas dans ma vie au quotidien. À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, est-ce que, pour le coup, on nous demande tous d'aller taper sur des ordinateurs, parce qu'avant on avait des agents. Oui, eh bien ma mère qui a 88 ans, eh bien si vous lui dites, madame, il faut que vous fassiez votre demande par ordinateur, comment fait-elle?
Ah non, mais ça, c'est... Oui,
comment fait-elle? Elle demande à son fils ou à ses enfants?
Et son fils,
comment fait-elle?
Juste en un mot, est-ce que ce n'est pas une question de temps de travail? Est-ce que d'absentéisme, le niveau d'absentéisme, notamment dans les collectivités territoriales, est gigantesque?
Alors, non. En même temps, Michel Barnier, il y a trois versions de la fonction publique. Oui. Quand il attaque la fonction publique...
Hospitalier, collectivité territoriale,
oui. Quand il attaque les collectivités territoriales, lui, il les finance à travers ce que l'État verse aux collectivités territoriales. Maintenant, encore une fois, les mettre sous le projecteur en disant que ce sont des feignants et tout cela, on veut tous des rues propres, des poubelles vidées et tout cela. Donc, c'est une richesse, la fonction publique, et ce n'est pas un coût.
Merci beaucoup, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul. Allez, Guillaume, l'écho. Et nous avons un peu débordé.
BFM Business, l'info éco.
18h30 sur BFM Business dans l'actualité ce soir. La première rencontre aujourd'hui à Luxembourg entre Antoine Armand, nouveau ministre de l'économie et des finances, et ses homologues européens. Le budget 2025 qui sera présenté jeudi en Conseil des ministres s'inscrira pleinement, je cite, dans les nouvelles règles budgétaires européennes. Côté entreprise, on va continuer à discuter entre Atos et l'État. Vous savez qu'il était question depuis quelques mois que l'État rachète les activités dites stratégiques du groupe. L'offre a expiré, a dit ce matin Atos, qui dit vouloir continuer à discuter. Le gouvernement a très vite répondu qu'il proposerait un nouveau schéma d'acquisition prochainement, je cite. Et puis si ça se confirme, ça serait un choc, mais d'après l'agence Reuters, le pétrolier BP pourrait bientôt annoncer qu'il renonce à tous les objectifs qu'il s'est fixés d'ici 2030 pour réduire sa production de gaz et de pétrole, objectif qu'il avait, cela dit, déjà revu à la baisse au début de cette année. 18h32, les experts BFM arrivent dans un instant en première partie jusqu'à 19h. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts BFM.
Ah oui, les experts BFM sont là, 18h36, première partie jusqu'à 19h. Avec qui ? Avec Edwige Chevrillon. Rebonsoir Edwige.
Rebonsoir.
Bien sûr. Emmanuel Lechypre est avec nous. Emmanuel, bonsoir. Bienvenue. On va partir sur des sujets du jour. Enfin non, j'ai du sujet du jour. Non, des sujets qui ne sont pas nouveaux. Les 35 heures, ce n'est pas nouveau. Les fonctionnaires, ce n'est pas nouveau. Et les retraites, ce n'est pas nouveau. Alors intéressant ce que dit Frédéric Souillot pour Force Ouvrière, qui pense encore pouvoir discuter avec Michel Barnier sur la question des 64 ans.
Alors, oui, parce qu'ils viennent avec Force Ouvrière, et tout fiers du reste, ils viennent de publier un communiqué avec les 8 syndicats. C'est un peu, c'est une intersyndicale, c'est, ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé. Enfin, en tout cas, c'était que dans la protestation au moment de la fameuse réforme des retraites. Et là, ils disent, on est prêt à négocier, mais stop, hors de question toucher aux 64 ans, mais on est prêt à négocier. Et alors je lui dis, vous allez négocier, puisque visiblement, chez le Barnier, on a quand même le sentiment que ça reste dans un cadre financier tel qu'il existe aujourd'hui. Et il dit, non, mais pas du tout. Dans le discours du politique général, il n'a jamais parlé que les 64 ans étaient une ligne rouge pour lui. Or, on peut très bien trouver de l'argent pour équilibrer le système des retraites. Avec la réforme des retraites, Elisabeth Borne nous avait dit que ça serait plus 12 milliards fin 2023. Vous voyez bien que ça n'a pas été le cas. Donc, nous, on a des solutions. Et donc, on va lui démontrer par A plus B qu'il y a une autre solution.
Effectivement, dans son discours de politique générale, il n'a pas dit explicitement que les 64 ans étaient une ligne rouge. Mais de toute façon, il ne pouvait pas le faire, ça. On est d'accord, c'était pas possible.
Oui, mais en même temps, si vous augmentez le taux d'emploi, ça vous fait économiser 20 milliards, c'est ça, Emmanuel?
Je sais pas, est-ce qu'il y a un autre moyen d'aller récupérer ces 12 milliards, que de préserver l'équilibre financier de la réforme, Emmanuel, pour vous?
Ben,
autrement qu'en allant aux 64 ans,
c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que tous les sujets qu'on a sur la table tendent vers une seule conclusion, c'est que globalement la quantité de travail fournie par les Français n'est pas suffisante. Alors après, il faut décliner un petit peu toutes les pistes, mais la réalité c'est que quand vous regardez la durée du travail des Français qui travaillent, que vous regardez temps complet, temps partiel, etc., les Français sont à peu près au début du dernier tiers de tous les grands pays. Quand vous regardez le nombre d'heures travaillées par habitant, on est beaucoup moins. On est les derniers, c'est-à-dire qu'on est ceux qui fournissons le moins d'heures par habitant. Et ça, c'est la mesure parfaite du niveau de vie d'un pays. C'est-à-dire que c'est le nombre de bras qui travaillent et qui créent de la richesse divisé par le nombre de bouches qu'il faut nourrir.
C'est 662 heures.
Voilà. Donc c'est du concret. Et donc quand on regarde finalement un petit peu le problème, c'est encore une fois que c'est ce que disait Edwige, c'est le taux d'emploi. Mais il y a pas à tortiller. Si vous voulez améliorer le taux d'emploi, le levier principal quasiment pour améliorer le taux d'emploi, c'est de corriger le principal responsable de notre écart de taux d'emploi avec les voisins, c'est-à-dire le travail des seniors.
Les seniors, et bien voilà.
Donc, les moins de 25 dans une moindre mesure.
Vous ne pouvez pas dire que vous ne voulez pas des 64 ans et que vous voulez baisser l'âge de départ à la retraite et dire qu'il faut que les Français travaillent plus. C'est-à-dire que concrètement, il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. Donc, on est tous d'accord pour dire que tous les problèmes de l'économie française seraient résolus si on avait un taux d'emploi équivalent à celui de l'Allemagne, c'est-à-dire en gros si on avait 1,5 million à 2 millions d'emplois.
Taux d'emploi de la France au 31 décembre dernier, 68,4%. Les Allemands sont à 10 points en dessus, les Néerlandais 12-13 points au dessus.
Voilà. Donc
nous, on a progressé.
Mais on a progressé notamment parce que les réformes successives des retraites...
Oui, ont voilà. Oui, c'est ça aussi, eh ben oui. Que les employeurs
donc,
changent de logiciel.
Si vous voulez,
logiciel.
Moi, je ne vois pas comment on pourrait aller vers davantage de travail. Alors si, la formation, tout ça, bien sûr. Mais le principal levier, c'est quand même de faire travailler non, mais davantage...
Il y a aussi la question des moins de 25. Hein,
les plus, oui, aussi. Voilà. C'est, bon. Mais franchement, faire travailler les plus de 55 ans... Donc d'une façon ou d'une autre, je ne vois pas comment la solution à nos problèmes n'est pas de travailler
si
plus longtemps.
55, on peut dire 55, 62 ans, si on se fait le...
Oui.
Au moins, si on les fait travailler jusqu'à 62 ans.
Dès 55
oui, mais
ans,
c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on voit, c'est que quand vous repoussez la borne, eh ben, vous augmentez la part des gens qui sont effectivement, alors notamment entre 55 et 60.
Edwige.
Non, autre point, parce que c'est lié, on en disait à l'instant avec Emmanuel, c'est la question des seniors. Donc ça touche la réforme des retraites, mais ça touche surtout l'assurance chômage. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tombé d'accord. Donc c'est la réforme de 2023 qui s'applique. Et donc là, il faut, normalement, il fallait qu'ils trouvent un accord d'ici le 31 octobre. Donc il nous a donné une petite info, c'est qu'il y aura donc un décret de jointure, comme on dit. Donc, ils vont négocier, mais il y aura une négociation flash. FO est d'accord, ils viennent de le dire. La CFDT est d'accord pour trouver un accord sur les seniors. Mais je dis, mais vous allez pouvoir trouver un accord avec le patronat. Il dit, mais oui, bien sûr.
Ils sont obligés de trouver un accord.
Mais pourquoi vous ne l'avez pas trouvé avant?
Ils sont obligés de trouver un accord.
Parce qu'il y avait des lettres de cadrage qui étaient fixées par le gouvernement, qui étaient beaucoup trop strictes.
Ils sont un peu obligés de trouver un accord quand même.
Parce oui.
Voilà, il va y avoir la pression. Alors, pour travailler plus, il y a effectivement ce que vous me dites sur l'emploi des seniors, entre autres, sur l'emploi des moins de 25 aussi. Et puis, vous avez entendu Gabriel Attal et Gérald Darmanin qui nous ont ressorti les vieilles ficelles. C'est-à-dire supprimer les 35 heures dans le privé, aller à 36-37 dans la fonction publique. Écoutez la réaction du vice-président de la CPME, Jean-Yves Dumédil, qui disait en gros, déjà, appliquons ce qui existe et puis après, on verra ce qu'on peut faire.
Alors, la question des 35 heures, elle est complexe. En réalité, le véritable sujet, c'est le coût au-delà de 35 heures. Aujourd'hui, quand on travaille plus que 35 heures, on a la possibilité de le faire.
Les heures sup.
Notamment les heures sup. Et puis, il peut y avoir des accords de branche qui annualisent. Enfin, techniquement, on peut travailler plus. Mais ça coûte plus cher à l'employeur. C'est ça la véritable question. Donc, quand Gérald Darmanin dit que l'horaire légal pourrait passer à 37 heures, la question, c'est à quel prix, d'une part, pour l'employeur et pour le salarié.
Voilà, ça vous agace pas qu'on ressorte les vieilles ficelles des 35 heures quand même, toujours
et encore. C'est pas une vieille ficelle, c'est une vraie question quand même, non ?
Il y a un sujet pour vous ? Elles ont été largement détricotées quand même depuis le temps.
Dans les grandes entreprises, bien sûr, parce qu'ils ont négocié des accords. Mais qu'on voit dans on en dira peut-être un mot sur les fonctionnaires, à l'hôpital, dans les petites entreprises, c'est quand même un handicap les 35 heures.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose à détricoter ? Moi, je veux bien.
Alors, il faut reconnaître que ça a quand même été considérablement assoupli. Oui. Donc, la question c'est une question qui effectivement est plus aussi prégnante qu'elle l'a été. Alors oui, c'est vrai que dans les TPE, PME,
c'est dans les TPE le problème.
Il faudrait pouvoir effectivement
à l'hôpital
travailler plus. Mais là où ça va être extrêmement compliqué, c'est que si vous voulez remettre une durée légale à 36-37 heures au lieu de 35, en gros, ça veut dire que les gens vont travailler plus ou autant pour moins cher. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui travaillait 37...
Non, Darmanin dit avec la rémunération qui va avec 36-37.
Bah oui, mais à ce moment-là, il n'y a pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'en gros, non, mais si vous travaillez 37 heures et que ou 38 heures et que vous faisiez 35 heures plus 3 heures d'heure sup mieux payées, Si vous arrivez à faire 35 heures plus 3 heures payées au même prix que les 35 premières, concrètement, vous allez travailler plus, mais vous serez payé moins. Ce serait quand même un peu compliqué.
Edwige.
Non, moi, juste presque plus une réflexion un peu politique. Pourquoi il dit ça là, maintenant ? Je veux dire, agiter le chiffon des 35 heures, alors qu'on sait
c'est un gros marqueur.
Dossier toujours explosif. Mais oui. Non, mais bien sûr. Mais alors, d'abord, un, ils avaient qu'à le faire avant. Et deux, pourquoi ils le font là, alors qu'il y a discussion budgétaire, que la ligne de crête, elle est quand même très, 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 très étroite. Et c'est très, très, très escarpé. Je veux dire, pourquoi il parle de... Pourquoi il lance ce débat-là ?
Mais parce que Gérald Darmanin, il est sur une ligne défense massive de l'offre. Des entreprises et tout ce qu'il dit depuis 15 jours est cohérent avec ça.
Oui, mais
quand il dit
on est d'accord, mais pourquoi ils le font là
impôts,
et pourquoi ils ne l'ont pas fait avant pendant 7 ans ?
Mais parce que je pense que c'est totalement antinomique avec la philosophie. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne voulaient pas revenir là-dessus. Et je pense que eux, ce n'est pas comme ça qu'ils envisagent le travailler plus.
Moi, je trouve que lancer ça maintenant, alors que On a à peine un discours du Premier ministre qui est en train de s'installer dans les conditions qu'on connaît. Et lui, il sait bien parce qu'il n'a pas été pris. Enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est une attitude un peu... qu'on en rediscute. C'est un vrai sujet de fond, hein, on est bien d'accord. Mais là, je trouve que c'est très étonnant.
Non, précisément, parce que comme... vous avez vu qu'il y a une espèce d'attelage un peu contre mature d'Armanin à Tal aujourd'hui.
Ça, c'est difficile de ne pas le voir.
Les sorties des uns et les autres à 24 heures d'intervalle, évidemment, sont pas anodines. Voilà donc pour ce dossier des 35 heures, 18h45. Nous allons parler électricité quelques instants avec Mathieu Pecheberti qui nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Guillaume.
Pour
bonsoir
parler alors de...
bonsoir Mathieu.
On vient de répéter à quel point on cherchait de l'argent, donc on n'apprend rien à personne en disant ça. À tel point que, alors d'après des infos de presse, le gouvernement s'apprête à appliquer une surtaxe sur l'électricité. Le même gouvernement qui nous disait il y a encore quelques semaines la facture va baisser de l'ordre de 10% pour les ménages. Mathieu, qu'est-ce qui se trame exactement là?
Alors ce qui se trame, c'est qu'effectivement le gouvernement est en train d'essayer de faire un peu de mécano fiscal en jouant sur la facture d'électricité sans entrer dans les détails techniques. Le gouvernement, il y a 2 ans, avait complètement annulé les taxes sur la facture d'électricité, puisqu'on était pendant la crise énergétique et qu'avec la flambée des prix, ils avaient finalement compensé, oui, une histoire de vase communicant, ils avaient totalement abaissé les taxes pour compenser la flambée des prix afin que les factures n'augmentent pas trop. Il était question depuis l'année dernière, et ça a déjà commencé, de faire un rattrapage fiscal puisque la crise énergétique est terminée. Et alors que les prix baissent, voilà, le gouvernement se rattrapait de l'autre côté, ce qui était entre guillemets assez normal et considéré comme normal, on va dire, partout. Sauf que le gouvernement sortant, celui de Bruno Le Maire, il y a quelques mois, avait dit la facture d'électricité baissera en février prochain, en février 2025, entre 10 et 15% parce que les prix ont baissé. Formidable. Sauf que là, le gouvernement, qui évidemment cherche plusieurs milliards d'euros pour boucler son budget 2025, se dit, ah, bah, il y a quand même encore un peu de marge à faire, et donc on va essayer de grappiller encore quelques milliards d'euros, donc non seulement en relevant le niveau des taxes au prix d'avant-crise, mais en allant un petit peu plus loin pour l'année prochaine pour essayer de récupérer quelques milliards. Donc on ne sait pas encore combien, on entend des chiffres circuler entre 2, 3, peut-être 4 milliards d'euros, mais ce qui aurait comme conséquence de fait de réduire l'impact de la baisse des prix d'électricité sur les marchés dans la facture des consommateurs, et donc on atterrirait, on ne sait pas également où, parce qu'on attend les arbitrages, mais on serait pas à 10-15% de baisse, peut-être en dessous de 10. Voilà, donc
ça rapporterait combien si on est qu'à 10, par exemple?
Alors, non, franchement, moi j'ai aucune idée pour le moment. Bercy est en train de faire ses calculs, rien, aucun chiffre sérieux ne nous revient.
Sur le site de BFM Business, on nous parle, il y a un chiffre qui est autour de 3 milliards.
On nous parle de 3 milliards et demi.
Le chiffre du Parisien hier, c'était 1 milliard et demi.
Voilà, et l'impact sur l'impact sur la facture, on entend parler de 9%, certains disent beaucoup moins. Je trouve que les ordres de grandeur sont effectivement ceux-là. Ils ne vont pas faire une surtaxe pour gagner 500 millions.
Non.
L'idée, c'est quelques milliards. Je rappelle juste que la semaine dernière,
on est... de ce qu'avait énoncé le Premier ministre, non? Il me semble que le Premier ministre avait dit que...
tout cas, il y a un débat, oui.
Emmanuel... Non, mais il avait dit qu'il ne touchait pas, c'était juste les super riches et les entreprises, les grandes entreprises.
Là, c'est pour tout le monde.
En fait, juste pour repréciser les chiffres, effectivement, cette taxe qui était de 32 euros globalement par mégawatt-heure avant 2022 avait été quasiment supprimée. Et effectivement, c'était une grosse perte pour le gouvernement. Donc, elle remontait un peu par palier. Là, on est remonté à 22. Et là, l'objectif, c'était effectivement de la faire passer à 32, à son niveau initial. Ça, c'était la promesse de Bruno Le Maire. Les nouvelles, effectivement, les plus récentes, c'est qu'on irait non pas à 32, mais peut-être à 37, 38. Voilà. Et là, il y a deux cas de figure quand vous êtes client et que vous achetez de l'électricité. Soit vous êtes au tarif réglementé. Et là, effectivement, il y avait l'entourloupe Le Maire qui consistait à nous dire que ça allait baisser de 10 à 15%. Ces 10 à 15% incluant la remontée de la taxe, mais une baisse des prix de marché tellement forte
30%. Que finalement, heureusement que les prix se sont...
Que finalement, la hausse de la taxe est passée à la trappe. Ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui sur un contrat à tarif réglementé, vous aurez quand même votre facture qui baisse, alors moins que ce qui était
prévu. Moins que ce que c'était prévu.
Le problème aujourd'hui, c'est surtout pour ceux qui sont passés au prix de marché, parce que la réalité, c'est quand même que depuis plusieurs semaines, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir changé de fournisseur et d'être à des prix qui sont 20 à 25% plus bas. Aujourd'hui, si vous choisissez les offres au prix de marché, aujourd'hui, vous êtes 20 à 25% plus bas. Et là, la mauvaise surprise, elle est pour ces clients-là.
C'est que ça va augmenter.
Puisque pour eux, pour le coup, ça va augmenter, puisqu'évidemment, leurs fournisseurs vont répercuter cette augmentation de la taxe. Et là, c'est là où c'est quand même assez étrange, parce que qui, aujourd'hui, Moi, pour connaître un peu ce marché, qui aujourd'hui va chercher en permanence les meilleures offres sur l'électricité compte tenu des tensions sur les budgets, c'est pas les ménages les plus aisés.
Oui.
C'est les ménages. Et là, si cette taxe-là, en fait, c'est une des multiples façons de taxer les plus modestes et de contourner cette promesse. Et c'est pas la première fois que le gouvernement contourne la promesse. Si vous regardez, il y a d'autres sujets sur lesquels, par exemple, on nous a promis que les classes moyennes et ceux qui travaillent seraient pas touchés.
Non, ouais.
Mais franchement, là, c'est une des façons de les toucher. Voilà.
Ah bah, Edwige. Oui. Non, moi, juste un point, c'est un peu contraire. Il y a encore peu de temps, Emmanuelle Wargon, la présidente de la Creux, elle nous expliquait que, voilà, exactement ce que tu venais de dire, Emmanuel Le Chypre. Donc, c'est là où je trouve que c'est un revirement vraiment sur le fil électrique, quoi.
En tout cas, si cette surtaxe est mise en place et qu'on arrive quelque part entre 3-4 milliards d'euros, sachant que, souvenez-vous, la semaine dernière, il y a deux semaines, d'une taxe spécifique sur EDF qui est en train d'être enterrée, Agnès Pannier-Runacher est contre.
Ah bah oui.
Sur les électriciens aussi.
Elle est contre et EDF, pour faire passer la pilule auprès du gouvernement, a dit ne nous mettez pas de taxes spécifiques sur nos centrales nucléaires, on va vous verser un dividende pour combler votre trou. Résultat, on aurait le retour des taxes sur l'électricité à un tarif, à un niveau d'avant-crise normal, plus cette surtaxe, plus le dividende d'EDF. Résultat, quand vous additionnez les chiffres, on est plus d'un milliard près, on risque de ne pas être loin de 10 milliards d'euros de prélevés sur le secteur de l'énergie et essentiellement sur EDF. C'est quand même pas rien.
Et voilà.
Et c'est les consommateurs qui payent la grande partie.
Exactement. Et au moment où on parle de transition écologique, il y a tout le débat sur les voitures électriques. Enfin, tout ça, c'est un peu contradictoire.
Mais là, c'est pareil. Quand on dit.
C'est un peu contradictoire.
Un des moyens détournés, là encore, de frapper la classe moyenne, ça a été de durcir le malus sur les voitures thermiques et hybrides qui, du coup, frappent quasiment 8 voitures sur 10 et des voitures qui sont achetées par la classe moyenne. Le Toyota CHR, le Renault Captur, c'est des voitures de la classe moyenne.
Ah, mais d'ici deux ans, l'ensemble, les 100% des thermiques sont concernés de toute façon.
Donc, franchement, il y a un peu d'hypocrisie dans tout ça.
Pas sûr que cette taxe passe au Parlement.
On verra ça. Ça sera tout le charme de la discussion budgétaire de cet automne, évidemment. 18h52, allez, vue sur le web, comme tous les soirs, coup de projecteur sur un des articles de BFMBusiness.com.
60 milliards, on va aller 40 milliards. Moi, je veux bien qu'on
Attendez, on laisse entrer Clément Le Sable. Bonsoir, Clément, entrez.
Entre ici,
Clément Le
Sable.
Écoutez bien. Avec cette pub télé pour la grande distrib qui fait beaucoup jaser depuis quelques jours.
Avec
regardez,
Michel
écoutez.
Leclerc.
Ouais, écoutez.
C'est patron de magasin. Comment il s'appelle lui déjà ?
Jean-Michel ?
Non, c'est pas ça.
Jean-Charles ?
Michel Paul.
Jean-Paul.
Édouard Paul.
Jean-Michel Paul.
J'en sais rien.
Effectivement, c'est vraiment plus cher ici.
Oui, Michel-Édouard est venu vérifier. Et Lidl est vraiment plus cher.
Alors voilà, Clément, ce qu'on vient de voir, l'entendre, c'est une pub. Oui, mais c'est une pub détournée, il faut préciser.
Parce que le début, donc, on entend des gens qui chuchotent dans un supermarché, et bien reconnaissent le patron des magasins Leclerc qui fait ses courses cabas à la main. C'est une pub Lidl, sous-entendu, les prix, ils sont tellement plus bas que même Michel-Édouard Leclerc en personne préfère aller chez Lidl que chez Leclerc pour faire ses courses. Sauf que on connaît Michel-Édouard Leclerc, c'est pas le genre à se laisser moquer sans réagir. Il a donc demandé à ses équipes de détourner la publicité originale pour ajouter cette phrase de fin. C'est vraiment plus cher ici, sous-entendu. Oui, je suis venu chez Lidl, mais tout ce que j'ai vu, c'est des prix plus chers que chez moi.
Et il faut dire que derrière le détournement qui est assez marrant, il y a une vieille bisbille entre Leclerc et Lidl.
Ouais, ça fait un moment quand même qu'ils se tirent la bourre ces deux-là. Elles se lâchent pas et la crise inflationniste n'a fait que rajouter à cette petite guéguerre de communication et de prix, évidemment. C'est surtout Lidl, en fait, qui a l'attaque. Qu'on s'en rend compte, puisque paradoxalement, l'enseigne du hard discount, elle n'a pas vraiment profité de la crise inflationniste. On aurait pu se dire, voilà, les prix augmentent, forcément, les gens vont aller un peu plus chez Lidl qu'avant. Eh ben non, c'est chez Leclerc qui sont allés. C'est Leclerc le grand gagnant de ces trois dernières années. Et aujourd'hui, à 24% de part de marché environ. Lidl, forcément, c'est plus petit, mais c'est que 8%. Résultat, Lidl tente d'exporter, on va dire, la bataille des prix dans les rayons vers les réseaux. Donc, des petites pubs un peu sympas qui font parler. Il y a quelques mois, par exemple, ils avaient fait une autre pub où ils accusaient, preuve à l'écran, preuve de produits différenciés. En gros, Leclerc, dans son comparateur, comparait des produits de qualité différente. Donc forcément, c'était moins cher. Résultat, ils l'ont un peu accusé de tordre la réalité.
Ah, c'est de plus en plus féroce entre la grande et la grande distive, entre les acteurs.
Ah, mais de toute manière, ça ne peut que commencer parce que les négociations commerciales, ça s'ouvre donc dans un mois.
Oui.
Et déjà, c'est très, très tendu entre eux et surtout, évidemment, avec les industriels et puis les agriculteurs. Donc, à mon avis, ça, on va avoir le droit à un numéro un numéro très violent pour cette période de négociation commerciale.
On va encore voir défiler les patrons des acteurs de la grande distribution sur les plateaux de télé et de radio. Là, il y a des saisons comme ça. Enfin, c'est quand même.
Ah, mais là, ils seront plus tout à fait dans le même rôle. C'est-à-dire que parce que là, ils ont eu quand même 2-3 années faciles entre guillemets où ils s'érigeaient en défenseurs de notre pouvoir d'achat.
Chevalier blanc.
Ouais. Là, si les prix ne baissent pas assez aux yeux des consommateurs, on va pouvoir quand même leur demander des comptes. Donc, les négociations vont sans doute être extrêmement difficiles. Oui. Il va y avoir du sang sur les murs, comme d'habitude.
Comme d'habitude, mais peut-être encore plus cette année. Peut-être encore plus. Ouais. Voilà pour ces
négociations commerciales. J'ai du mal à croire que Lidl soit plus cher que Leclerc.
Pourtant, c'est ce qui ressort dans la plupart des études.
D'accord, ok.
Dans les paniers moyens.
Quoi. D'accord,
oui, ça montre aussi que c'est Leclerc qui a finalement le plus à perdre. C'est toujours le leader qui est quand même au taquet des parts de marché en France.
Ils ont quand même bien consolidé
leur. Mais il y a quand même une centrale d'achat aussi en Belgique.
Donc ça veut dire que Lidl n'est plus
un magasin à perte de la concurrence.
Sur le papier, ça reste du hard discount. Après, il y a les différences entre est-ce que c'est leur produit ou pas. C'est ça la différence avec Leclerc aussi. C'est-à-dire qu'eux argumentent que ce sont leurs propres produits, que c'est eux qui les produisent. Et donc, forcément, ils ont des coûts qui peuvent répercuter différemment. D'accord.
Voilà pour cette belle bataille qu'on va suivre, évidemment, en large et en travers sur BFM Business, bien sûr. Merci à tous les quatre d'être passés ce soir. Mathieu Pechberti, Emmanuel Lechypre, Clément Le Saff, merci. Edwige, à demain.
Demain, c'est Adrien Couret qui est le président d'AMA Massif AESO Mutuel, 5e assureur de France. Et bien, les mutuelles, elles aussi, elles vont passer à la caisse, donc on va voir si c'est d'accord. Et puis il y a quand même un problème de tarif, de tarification. On voit bien, ça a augmenté. Ça ne va pas s'arrêter là.
Non, ça s'annonce assez corsé pour l'an prochain, apparemment. Eh ben, on verra ça demain à 18h10. Merci beaucoup, 18h57. Nous revenons dans un instant, la deuxième heure de Good Evening Business jusqu'à 20h. Bien sûr, à tout de suite.
Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.